dans cette émission. Les sommets sur les financements des économies africaines organisés hier à Paris s'est clôturé le même jour en soirée. Parmi les résolutions prises figure notamment l'appui à la lutte contre la Covid-19 en Afrique, la réorganisation de la dette du continent, et l'un des apports concrets de ce sommet est notamment la promesse des 33 milliards de dollars américains de la part du FMI sur les 100 milliards souhaités par l'Afrique pour soutenir son économie durement affectée par l'urgence de combattre le coronavirus. Lors de ses assises de Paris, le président Félix Tshisekedi a proposé la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid afin de permettre qu'ils soient désormais fabriqués aussi sur place dans les pays africains. Cela diminuerait, selon lui, la méfiance des populations contre les vaccins du coronavirus. Comment analysez-vous les résultats et les résolutions de ces sommets de Paris? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons dans cette émission professeur Michel Bissa, il est secrétaire scientifique de l'Observatoire des sciences sociales sur le phénomène de la Covid-19 au Congo-Kinshasa. Bonsoir, professeur Michel Bissa. Professeur Michel Bissa, est-ce que vous êtes là? Professeur Moïla Chiembe, il est directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Bonsoir, professeur Moïla Chiembe.
Oui, bonjour.
Bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à Dialogue entre Congolais, laissez un commentaire ou posez une question en écrivant à dec@radiocapi.net. Appelez au 081 890 64 88. Laissez un commentaire sur la page Facebook intitulée Dialogue entre Congolais-Radio Okapi. Et n'oubliez pas de joindre à tous vos messages un numéro de téléphone par lequel nous pourrons vous appeler en cas de besoin.
Nous le disions dans les sommaires de cette émission, le sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui a réuni plusieurs chefs d'État, surtout africains, aux côtés de leurs homologues français et d'autres dirigeants européens et ceux des institutions financières telles que la FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, s'est clôturé hier mardi. Premier à prendre la parole lors de la conférence qui a sanctionné ses assises, le président Emmanuel Macron qui est revenu sur les objectifs de ce sommet, à savoir apporter des réponses de court terme et lancer des dynamiques pour lancer les New Deal pour l'Afrique. L'ambition était de récolter 5 milliards de dollars et le numéro 1 français a promis d'y parvenir. Les détails dans ce reportage de Billy Ivan Lutumba.
Lors de la conférence de presse qui a sanctionné la clôture de ce sommet, Emmanuel Macron a précisé que pour répondre aux défis économiques de l'heure sur le continent,
nous avions ensemble obtenu le moratoire sur les intérêts et le principal de la dette détenue par les pays du G20 sur 2020 et 2021. Ensuite, la consolidation d'un nouveau cadre commun pour la restructuration des dettes. Troisième grand acquis, c'est l'émission de droits de tirage spéciaux, 650 milliards de dollars. Cette émission de droits de tirage spéciaux, elle va permettre de déclencher une impulsion qui, au fond, permet à la communauté internationale, FMI, déjà d'apporter ce que aujourd'hui l'Afrique n'a pas, c'est-à-dire un mélange d'armes monétaires et budgétaires qui permet de répondre à court terme à la crise.
Au-delà de cet acquis, il a été décidé d'ici juin ou octobre prochain une réallocation des droits des tirages spéciaux des pays les plus riches et de plus ou moins 5 milliards pour l'Afrique. Une occasion pour le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, d'interpeller ses pairs africains.
Nous avons besoin d'améliorer la bonne gouvernance. Nous devons fournir beaucoup d'efforts dans les réformes. Nous devons absolument lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le blanchiment d'argent. Nous devons avoir des systèmes économiques transparents, des systèmes financiers transparents qui rassurent les investisseurs.
Pour Emmanuel Macron, cette allocation des droits des tirages spéciaux à travers la Banque africaine de développement et les banques publiques de développement africaines permettra de financer plus vite et au plus près des terrains en innovant.
Merci beaucoup à Billy Ivan Lutumba. Professeur Michel Bissa, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, merci beaucoup.
Voilà, je rappelle que vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire des sciences sociales sur le phénomène de la Covid-19 au Congo-Kinshasa. Ce sommet avait comme objet apporter de l'assistance aux économies des pays africains fragilisés par la Covid-19. Et vous, sur demande du Bureau international du travail BIT, vous avez effectué des études sur l'impact de la Covid-19 sur le plan socio-économique de la RDC. Et qu'est-ce que ces études ont révélé, professeur Michel Bissa?
Merci beaucoup à la Radio Capi. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette occasion. Effectivement, avec des collègues de l'Université de Lubumbashi, notamment de la CEP et ceux de l'Institut des mondes africains, nous avons réalisé dans le cadre de l'OPSES une étude de l'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur les activités du secteur économique en République démocratique du Congo. De nos principaux résultats, il s'avère d'abord que c'est l'économie informelle qui a été durement frappée. Cette économie informelle n'a pas seulement été frappée sur le plan de sa substance, c'est-à-dire capacité de production, capacité d'écoulement, mais également ça a été frappé par rapport aux mesures qui étaient prises pour lutter contre la COVID-19 sur le plan sanitaire. Donc, au départ déjà, les mesures prises en République démocratique du Congo, c'était des mesures mal calculées parce que sanitairement, vous le savez que la COVID-19 n'a pas eu l'impact attendu. Mais cet impact a été très catastrophique sur le plan économique. Deuxièmement, nous avons identifié les secteurs les plus touchés de cette économie. Ce secteur-là se situe au niveau micro, mais également au niveau méso. C'est-à-dire au niveau micro, c'est au niveau des unités de production de l'économie informelle qui tiennent 90% d'économie, selon les données de l'Institut national de la statistique. Mais au niveau méso, c'est le niveau structurel, le niveau associatif. Quand vous allez chez Copemeco, vous allez chez Foleco, vous allez chez FEC, vous savez identifier cela. Et ces deux niveaux-là n'ont pas été pris en compte par le sommet de Paris qui s'est occupé exclusivement du niveau macro de notre économie. C'est-à-dire, on veut injecter les fonds, ce qu'ils ont appelé réduire la dette, agir sur le financement de niveau étatique. Et là, c'est aussi une crise d'approche énorme. C'est-à-dire que le sommet de Paris, par rapport aux principaux résultats dégagé d'une étude empirique que nous avons menée sur le terrain, ne semble pas regarder dans la même direction. Voilà pourquoi nous disons que c'est un sommet qui a regardé de manière parallèle au lieu de partir des problèmes de la base que nous avons identifiés et ils sont partis dans une approche top-down.
Vous dites que parmi les secteurs qui ont été touchés, il y a l'économie informelle. Est-ce que vous avez pu évaluer les coûts financiers pour permettre à ces secteurs de pouvoir se relever, professeur Michel Ibissa?
Oui, en fait, le problème majeur par rapport à cet élément, il y a des estimations. Parce que, en partant de données fournies par l'Institut national de la statistique, vous savez que l'INES, la République démocratique du Congo a initié une enquête déjà en février 2019, c'est-à-dire un mois avant la déclaration effective de la pandémie de COVID-19 au Congo-Kinshasa. Et cette étude-là avait pu identifier, dans le prolongement d'une autre enquête qu'on appelle l'enquête 1-2-3, ces deux enquêtes ont pu identifier les différentes unités de production. À ce jour, les besoins, rien que pour la République démocratique du Congo, de notre problème d'abord, c'est question de savoir qu'est-ce que nous voulons de notre système économique. Ce n'est pas tant l'injection des moyens financiers, mais à ce jour, ce dont nous avons vraiment besoin au Congo, c'est le financement massif à long terme pour la construction d'un véritable système de production locale à partir de notre économie informelle, mais également d'une véritable industrie de transformation locale. À ce jour, j'ai suivi avec étonnement que les présidents africains ont déclaré qu'ils s'attendaient à 100 milliards de dollars américains pour faire face à l'économie de l'Afrique.
Justement, professeur Bissa, ce qui était attendu à l'issue de ce sommet, c'était 100 milliards de dollars américains. Mais ce qui a été acté, selon le président français, c'est 33 milliards de dollars. Et vous pensez que cela pourrait suffire pour permettre à aux secteurs qui ont été affectés par la COVID-19 de pouvoir se relever? Pour la RDC, vous avez parlé du secteur informel, et vous pensez que les 33 milliards répartis à tous les pays africains pourraient aider ces pays à pouvoir élever leurs économies?
D'abord, je dis non. C'est largement insuffisant, même à l'échelle d'une seule sous-région, comme l'Afrique centrale, largement insignifiant. Mais disons d'abord, précisons là-bas, c'est qu'au niveau du sommet de Paris, il n'y a eu aucun engagement financier ferme sur le plan économique. Il y a eu une seule promesse réitérée du FMI, je dis réitérée parce que le FMI avait déjà évoqué cette perspective bien avant, de mettre à la disposition de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique tout entière, une somme de 33 milliards de dollars américains. Et l'Afrique subsaharienne n'a droit qu'à 24 milliards de ces fonds, et encore que ces 24 milliards-là proviendraient des droits de tirage spéciaux. C'est-à-dire, les droits de tirage spéciaux, c'est l'équivalent de la planche à billets du FMI. Bon, c'est une formule, semble-t-il, qui aurait satisfait nos chefs d'État parce que leur souci était d'éviter la dette. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser le problème. Le problème se pose en termes d'approche. Première approche, d'abord, c'est que, au-delà du fait que même 100 milliards de dollars attendus des chefs d'État étaient insuffisants, parce que l'Afrique subsaharienne, je dis bien l'Afrique noire, a des besoins estimés par FMI lui-même à 340 milliards de dollars pour l'Afrique noire. 340 milliards. Mais voilà que là, on propose pour cette Afrique noire 24 milliards. Parce que les 33 milliards couvrent l'ensemble de l'Afrique. Donc, c'est vraiment d'abord insignifiant, c'est insuffisant. Quand je parle de l'approche, là-bas, ils n'ont pas évoqué des problèmes du niveau micro et du niveau méso. Ils se sont limités au niveau macro. Mais ce niveau macro, c'est-à-dire quoi? C'est une économie tenue par les partenaires, généralement des expatriés. C'est eux qui sont dans des sociétés multinationales, ce sont qui sont les partenaires de la France, les partenaires de l'Europe. En d'autres termes, c'est un sommet de la perpétuation du système d'exploitation de l'Afrique à travers les multinationales. C'est des fonds qu'ils vont vous donner, une planche à billets qu'ils vont faire et qui vont venir, mais qui rentrera effectivement dans une économie formelle tenue par ces mêmes occidentaux-là. Je pense qu'on arrive à bien comprendre l'intelligence d'Emmanuel Macron et de son système qui sont là derrière.
Professeur, vous parlez de ces problèmes d'approche en évoquant le fait qu'on met un accent sur les systèmes macro au détriment des systèmes micro. Et donc, logiquement, c'est beaucoup plus les multinationales, les sociétés multinationales qui vont bénéficier de cette cagnotte. Et par là, on sait que les richesses qui sont, n'est-ce pas, produites par ces multinationales, ces richesses vont développer les mêmes pays occidentaux. Est-ce que les dirigeants africains, en allant participer à ces sommets, en ayant opté pour cette approche, est-ce que ces dirigeants n'étaient pas au courant de cette réalité?
D'abord, c'est qu'il faut noter d'abord l'historique de ces sommets. Le président de l'Union africaine, qui est le président de la République démocratique du Congo, était il y a quelques deux semaines ou trois à Paris. Le président français lui a dit « Nous restons réfléchir sur comment venir en aide aux économies africaines. » C'est-à-dire, c'est eux qui sont restés réfléchir. Et pourtant, ici localement, il y a des chercheurs, il y a des laboratoires qui réfléchissent, qui ont fait des rapports, qui ont déposé des rapports, mais c'est les autres qui réfléchissent. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Mais deuxième problème, lorsque on les appelle à Paris, c'est la France qui sélectionne. C'est vrai qu'à Paris, il y a eu les FMI, il y a eu la Banque mondiale, il y a eu la Banque africaine de développement. La Chine, premier financier aujourd'hui de l'Afrique, n'est intervenue que par vidéoconférence et par un représentant qui n'est pas le chef d'État. Le problème du Congo et de l'Afrique existe dans des contextes spécifiques. Nous avons nos problèmes que nous devons identifier. Ce n'est pas à la France d'identifier des problèmes, selon lui, et de penser pouvoir venir à la rescousse de notre économie. Donc là déjà, c'est aberrant, c'est un sommet néocolonial, c'est un sommet pas de nos problèmes, mais qui vise à résoudre les problèmes de l'économie européenne en Afrique. Ils n'ont pas ciblé nos problèmes, ils ne les connaissent pas. Ils ont ciblé des problèmes qui vont permettre à leur économie de continuer à fonctionner, à exploiter l'Afrique.
Merci, professeur Michel Bissa. Nous allons vous redonner la parole. Professeur Boïda Chiembe, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Après le tableau peint par le professeur Michel Bissa, comment vous analysez les conclusions de ce sommet de Paris, hein? Michel Bissa dénonce le fait que, à travers ce sommet, les puissances occidentales cherchent à solutionner les problèmes économiques de leur pays en Afrique, en évoquant notamment le fait que la cagnotte qui a été décidée ne va pas servir aux PME africaines, mais plutôt aux multinationales tenues par ces puissances occidentales. Comment vous analysez les résolutions et les résultats issus de ces sommets de Paris?
Oui, Guy, écoutez-moi bien. Vous savez, j'ai écouté religieusement mon collègue Michel. Je pense qu'il faut avoir une autre approche. Michel est resté dans l'école que nous connaissons tous, hein, quand on était encore étudiant, il y a déjà quelques années. C'est le discours hein, tiers-mondiste, c'est du bouc émissaire, c'est toujours les autres qui nous veulent de malheur, c'est la colonisation, c'est la néocolonisation, quitte à conclure à la fin que nous devons nous occuper de nos affaires, l'économie informelle dont il parle. Je lui fais confiance comme tel de ce qu'il dit, mais l'économie informelle, ce n'est pas l'affaire de la France. C'est l'affaire de la République démocratique du Congo, c'est l'affaire du Sénégal. Il a fait des statistiques, bravo, mais c'est à lui de les présenter avec les organismes dont il parle, au gouvernement congolais, pour que celui-ci tire leçon de la recherche menée par les Congolais sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'affaire du FMI, ce n'est pas l'affaire de la France, ce n'est pas l'affaire des États-Unis, encore moins de la Chine. Alors, la deuxième leçon qu'il faillit tirer de... On a une approche réaliste. Lorsqu'on est réaliste, on doit savoir, un, que les conférences diplomatiques d'hier, comme ceux d'aujourd'hui et probablement de demain, traduisent toujours un rapport de force. Un rapport de force entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et dans les traditions africaines, le président Bongo n'avait cessé de nous rappeler que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. En conséquence de quoi, ce n'est pas de la charité, c'est du business. Alors, si aujourd'hui le président Macron, si aujourd'hui le FMI, si aujourd'hui la Chine ou un autre pays a un regard sur la dette des pays africains, ce n'est pas de la charité, parce qu'il faut rembourser la dette de la Chine. Si les pays africains, la RDC ou bien d'autres, ou un pays comme la Zambie n'en a pas les moyens, bah, il faut bien que quelqu'un lui en donne. C'est tout à fait regrettable de voir renvoyer le gouvernement de la Zambie, pour citer qu'un cas proche de la RDC, s'est endetté. Du moment où vous prenez les biens de quelqu'un, un investissement, etc., l'honneur est dans votre capacité à rembourser. Alors, évitons toujours de se chagriner, de rappeler le chapelet de colonisation, etc. Mais quand le gouvernement de la Zambie a pris l'emprunt auprès de la Chine, il s'est engagé à rembourser. L'honneur de l'Afrique, c'est de voir les dirigeants africains mieux gérer leurs affaires, pour pouvoir rembourser leurs dettes. C'est ça la crédibilité des pays africains. C'est pas de dire, oui, nous on est dans le microéconomie, nous sommes dans l'informel, il faut que les autres s'occupent de l'informel. Je pense que c'est compréhensible, c'est un peu du misérabilisme, si vous voulez, excusez-moi l'expression. Mais les affaires africaines, si les Africains veulent les aborder, diable, ils n'ont rien à voir avec l'Europe, ils n'ont rien à voir avec l'Occident, ils n'ont rien à voir avec la Chine, ils n'ont rien à voir avec l'Inde. Il y a une partie des responsabilités qui découle des pays africains. Le président Tshisekedi, en tant que président en exercice de l'Union africaine, a rappelé dans le discours que nous devons assurer la bonne gestion de nos affaires. Nous devons lutter contre les antivaleurs. Tout ce qui détourne les biens publics, il faut les appréhender. Dès que le juge à considérer que cette culpabilité est établie, il faut les jeter en prison, il faut saisir leurs biens. C'est ça le réalisme. Ce n'est pas le fait de dire, oui, ben, les autres nous en veulent, ils ne s'occupent pas de nous. Mais nos propres affaires, c'est à nous.
Oui, professeur Maïla...
Il faut changer le discours africain.
Voilà, vous dites qu'il faut changer le discours africain. S'il faut parler d'approche, on sait que l'objet de ces sommets était, n'est-ce pas, de permettre aux puissances occidentales d'apporter de l'assistance aux économies des pays africains qui sont fragilisées par la Covid-19. Mais lorsque vous apprenez que les sommes qui ont été décidées, notamment les 33 milliards, même si la décision n'a pas été prise de façon formelle, que ces sommes-là pourraient beaucoup plus profiter aux multinationales qu'au secteur de l'économie informelle. Est-ce que nous allons atteindre l'objectif qui a été visé par ces sommets?
Je rappelle que nous sommes dans le monde des affaires. Si les pays occidentaux ou non occidentaux comme la Chine ont consenti à ce que on puisse trouver 100 milliards de dollars pour investir en Afrique, aider les pays africains. Mais les investissements de la Chine demande le remboursement. Comment voulez-vous qu'un pays africain comme la Zambie rembourse s'il n'a pas un rond? Donc, ces aides, qu'elles viennent de bilatéral ou qu'elles viennent du multilatéralisme, notamment du Fonds monétaire, notamment des tirages spéciaux, ça permet à un État souverain comme la Zambie de payer la dette de la Chine, partiellement. C'est ça la réalité. L'important, ce n'est pas de dire oui, on a demandé. C'est vrai, on a mis la barre à 100 milliards de dollars. Mais quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut se contenter de ce qu'on a. C'est la leçon du réalisme. Le demandeur demande toujours trop ou demande plus au regard de ses besoins. Mais le donneur, il n'est pas obligé de se conformer à celui qui demande, parce qu'il a ses propres impératifs. Si vous regardez des pays comme la France, des pays comme les États-Unis, est-ce que vous pouvez savoir quel est leur degré de dette, le niveau de l'endettement de la France depuis la pandémie, l'endettement des États-Unis? Qui payera à l'heure qu'il est aux États-Unis comme en France, au Royaume-Uni et ailleurs? On s'interroge sur la capacité de ce pays à payer des milliards de dollars qui ont été engagés pour sauver la nation, pour sauver les entreprises. Vous voyez, tout le monde a des problèmes. Et il ne faut pas toujours dire, oui, les pays africains ont demandé 100 milliards, on a donné ou promis 33. De ce que 33 milliards, c'est beaucoup au regard de celui qui donne. Mais si c'était facile, pourquoi les pays africains ne produiraient pas même 10 milliards?
Oui, il y a cette question de la dette des pays africains a semblé diviser, n'est-ce pas, les Africains. Certains pays sont favorables à l'annulation totale de cette dette, et tandis que d'autres souhaiteraient une réduction partielle. Et comment vous expliquez cette divergence dans un continent où les experts disent qu'aucune économie n'a été épargnée par les conséquences néfastes de la pandémie de Covid-19? En d'autres termes, comment un pays pauvre peut demander à ses créanciers de ne pas annuler ses dettes? N'est-ce pas un paradoxe, professeur Moïse Tshiembé?
Oui, c'est paradoxal, Guy, lorsqu'on parle de ces questions. Vous savez, dans le monde des affaires, il n'y a pas de charité. Lorsque la parole d'honneur a été donnée, la moindre de crédibilité, c'est de faire tout ce qu'il a en son pouvoir pour rembourser ses dettes. Alors, un État qui a pris une dette, qui n'est pas capable de la rembourser, il saute sur l'occasion pour dire à celui qui lui a prêté, annulez la dette. Et la prochaine fois, quand vous serez en difficulté, que fera celui que vous a prêté? Il va refuser. Et s'il refuse, c'est le marasme. Où est la solution? Je pense, il est vrai que c'est difficile. Tout le monde a des dettes. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la France a des dettes. L'Allemagne a des dettes. Les États-Unis ont des dettes. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas de dettes. Avoir une dette, ce n'est pas une injure. L'important est de savoir à quoi sert la dette. Si on a pris la dette pour aller investir aux États-Unis, garder des milliards ou des millions dans son coffre-fort en tant que président, en tant que DG, comme les Africains nous ont habitués depuis les années 60. En ce moment-là, regardez, au Nigeria, grand pays, un des ministres a mis des milliards de là à l'étranger en prenant sur le pétrole. Vous trouvez ça normal? On ne rembourse pas parce que le ministre a mis à son compte. Il n'a pas mis sur le compte du Nigeria, le compte public. Il a pris dans la caisse de l'État et il a mis sur son compte propre. Nous devons, comme Africains, cesser ce discours de misérabilisme Mais si on nous en veut, mais on nous en veut parce que nous prêtons le flanc aux autres pour pouvoir nous traiter comme des petits-enfants.
Merci.
Je sais que les temps sont durs et que tout le monde peut tendre la main en termes de solidarité, je n'en discute pas.
Merci.
Mais, je te dis, l'intérêt supérieur de l'Afrique et des pays d'Afrique pour être respecté, lorsqu'on a une dette, on doit tout faire, tout ce qui est en son pouvoir pour rembourser petitement sa dette. C'est à condition de la crédibilité pour en demander la prochaine fois. Si vous dites annuler, vous êtes en train de cracher sur la soupe. Parce que la prochaine fois, lorsque vous direz j'ai un problème, personne ne viendra à votre secours. C'est ça la réalité.
Merci professeur. Professeur Michel Bissa, votre réaction par rapport aux explications du professeur Moïla Tchiembe, qui a semblé, n'est-ce pas, fustiger votre discours, hein, qu'il qualifie de discours tiers-mondiste.
Merci beaucoup. Je salue mon collègue Moïla Tchiembe. J'ai eu le temps de lire un de ses ouvrages. Je le salue là où il est. Au contraire, je pense qu'il n'a pas eu le temps de bien comprendre le fond de ma pensée. Je ne suis pas alarmiste. Je suis de ceux qui pensent que l'aide internationale, la Banque mondiale, les FMI, les institutions de Bretton Woods et la France n'ont jamais développé un pays en Afrique et ne développeront jamais un pays en Afrique. Et donc, c'est moi qui suis peut-être beaucoup plus réaliste puisque je vous ai parlé des problèmes du terrain et non pas de philosophie. Alors, le professeur, moi, il a parlé du discours qui doit changer, mais j'ai eu l'impression comme si le professeur n'a pas la réalité du terrain ou qu'il a fait un peu longtemps à l'extérieur du pays. Tenez, quels sont les problèmes? Je vous ai dit tout à l'heure que le véritable problème du Congo, particulièrement aujourd'hui, c'est le financement massif à long terme pour la construction de notre système de production et de notre industrie de transformation locale. Cette industrie est identifiée par les Congolais. Cette industrie doit être financée par les Congolais. Alors, le professeur a abordé tout à l'heure la question de la dette. D'abord, il faut noter que le New Deal dont Emmanuel Macron parlait bientôt, et c'est trois, cette situation était trois. Macron avait parlé de l'annulation partielle de la dette africaine, de l'injection de liquidité dans notre économie, c'est les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, ainsi que du plan de la relance économique de l'Afrique. Non, dire que ce n'est pas à la France ou en France de sélectionner qui va prendre part à un système qui va discuter de l'économie africaine, dire que ce n'est pas à la France ou à Macron de définir les plans de relance économique de l'Afrique, dire que notre problème ne se situe pas dans l'annulation ou le paiement de la dette, ce n'est pas être alarmiste. C'est ça, être réaliste d'ailleurs. Parce que nous devons définir nos priorités selon ce que notre propre terrain nous donne. La dette n'est pas forcément une mauvaise chose. Là, je ne partage pas le point de vue de mon aîné, Moïla Tchiembe. Les USA ont un plan de relance de 2000 milliards de dollars. L'Union européenne a un plan de relance de 750 millions d'euros, financés par les contribuables européens. Nous, ici, chez nous, notre problème n'est pas un problème de la disponibilité de liquidité. Notre problème, c'est un problème de la gouvernance politique conformément à nos propres besoins. C'est là que moi et mon aîné, moi, il a déjà, nous n'arrivons pas à nous comprendre à ce niveau-là.
Professeur Michel,
mais voyez, allô? Oui.
Cela voudrait dire qu'il y avait d'autres alternatives à cette approche de Paris?
Oui, d'abord, premier élément, notez que la suggestion de l'annulation de la dette est une aberration. Ce n'est pas la première fois dans ce pays nous avons connu ce qu'on appelait PPTE. Le gouvernement Mouzito a permis d'atteindre, je pense, ce qu'on appelait le point d'achèvement. Ça n'a résolu aucun problème. Le professeur Moïla est en train de parler de la crédibilité, il faut payer la dette. Mais messieurs les journalistes, la dette, c'est l'angoisse du créancier. Ça ne peut pas être notre angoisse à nous. Ils n'enverront jamais l'armée française, ni de l'OTAN, ni qui que ce soit pour venir recouvrir la dette ici chez nous.
Le Bénin
a refusé l'annulation de la dette.
Et
le Burundi et le Sénégal ont applaudi cela. Nous devons, tout ce que moi je suis en train de dire, nous devons éviter de tourner le dos au Congo profond pour jeter nos regards à Paris, quelles sont les alternatives? Je vous ai dit d'abord, le principal problème que nous avons aujourd'hui ici, ce n'est pas les trois principaux problèmes identifiés là-bas. Premier problème identifié, tenez, le président de l'Union africaine, qui est notre chef de l'État, a relancé, dans la suite de l'OMS, que l'on puisse faire ce qu'on appelait la levée des brevets sur les inventions des vaccins COVID-19. L'approche est biaisée. Nous, ici, nous n'avons pas un problème contre qui a fabriqué les vaccins, ni contre les pays qui ont fabriqué ces vaccins-là, non. Nous avons un problème contre le principe du vaccin lui-même. Nous prenons tous les médicaments qui nous soignent ici, sont peut-être fabriqués dans tel ou tel pays. Ça ne nous a jamais créé de problème. Mais ici, chez nous, le virus n'a pas eu un impact sur les plans sanitaires, comme en Europe, comme en Amérique. Mais nous avons copié des mesures barrières imposées en Europe, que nous avons transposées chez nous, ça ne connaît pas nos réalités. Conséquence, à cause des mauvaises politiques publiques, nous avons tué notre économie.
Merci,
professeur. Bon, pas tué, elle est agonisante. C'est-à-dire que nous devons rentrer sur les terrains congolais, non pas en France, pour identifier les problèmes. Je vous ai dit que les chercheurs de l'ARCEP, nous, à l'Observatoire d'Avernance, nous avons fait une étude. Mes collègues qui sont à l'INES, Institut national de la statistique, ont identifié les unités, les principaux problèmes, les secteurs prioritaires. Mais également, la COVID-19 nous a donné une opportunité, c'est de nous suggérer des éléments qui pouvaient être nos propres secteurs les plus frappés, mais également une créativité magnifique.
Merci, professeur.
Nous avons trouvé des secteurs qui ont profité de la COVID-19 et qui ont évolué.
Merci professeur. Professeur Moïna Chiemé, les auditeurs ont aussi donné leur point de vue par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de l'auditeur qui nous appelle de Durba, dans la province de Ouélé.
Mon point de vue est que les autorités africaines arrêtent de rêver que le salut de l'Afrique proviendrait de la communauté internationale ou soit des Occidentaux. Nous devons nous mettre vraiment au travail, nous devons chercher une stratégie pour développer l'Afrique. Nous avons le potentiel humain, nous avons les ressources minières, donc les sols riches. Donc en quelque sorte, nous devons nous-mêmes donner des politiques cohérente vraiment pour le développement de l'Afrique.
Professeur Moïna Chiemé.
Mais voilà le réalisme. Au lieu de dire, ben voilà, c'est du néocolonialisme, nous sommes dans la microéconomie, nous avons identifié des choses pertinentes dans l'économie informelle. Pourquoi ils ne suivent pas ce que nous avons vu? Mais qu'est-ce qui oblige les États-Unis à s'occuper des découvertes de mon collègue pertinentes sur les bienfaits de l'économie informelle? Ce n'est pas l'affaire des États-Unis, ce n'est pas l'affaire de la France. Mais si le Congo le faisait, si l'Afrique le faisait, on applaudirait. Pourquoi toujours s'en remettre aux autres? Ce pays, la République démocratique du Congo, a des potentialités minières que la France n'a pas. Qu'est-ce qu'on fait des minéraux de la République démocratique du Congo? Tout le monde connaît la réponse. On n'en a rien fait, sauf la période où la Gécamine permettait de payer, de supporter près de 60% du budget national et permettait de donner du travail aux gens, etc. Depuis l'effondrement de la Gécamine, les mines ne participent à plus rien. Même les mining qui produisent plus que la Gécamine, quelle est leur contribution au budget national? Quelle est leur contribution aux impôts? Quelle est leur contribution à la création des hôpitaux? Même à Lubumbashi ou dans le Katanga, les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts, comme faisait l'Union minière. Rien. Donc par conséquent, je pense que, comme disait d'ailleurs mon collègue, le réalisme nous oblige à regarder les faits, nos réalités, en disant, nous sommes Congolais, nous avons vu le régime de Mobutu, nous avons vu le régime de Kabila, aujourd'hui il y a un autre gouvernement qui a un autre discours, qu'est-ce qu'on peut bien faire?
demain pour ne pas toujours répéter la même chose. C'est la faute de, c'est la faute de.
Merci, professeur. Professeur Michel Bissa, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Bukavu au Sud Kivu.
Sikiri Chomba, je vous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Parfois, je me pose la question de savoir si les autorités africaines ont-ils une vision pour l'Afrique ou comment. Pour moi, ce sommet est un échec, voire même une moquerie pour le peuple africain. Et comme preuve, pour 100 milliards, l'Afrique est appelée à se contenter de 33 milliards pour relancer son économie. N'est-ce pas là une moquerie à ciel ouvert? Je me suis toujours demandé pourquoi l'Afrique ne veut pas quitter la tutelle et coopération néocoloniale. À mon avis, dans des sommets pareils, l'Afrique devait arriver à exiger les transferts de technologies de base et pointe pour transformer les matières premières sur place en Afrique pour donner une valeur ajoutée. Utiliser nos matières premières pour produire des biens et services sur place en Afrique afin de procéder à un développement accéléré, écologique et durable de notre continent. L'Afrique devait profiter de cette pandémie pour booster son économie, mais hélas, nous restons des mendiants éternels.
Professeur Michel Bissa, votre réaction?
Merci beaucoup. Je viens de suivre Fikiri avec attention du côté de Bukavu et à le collège Alfajiri. Je suis totalement d'accord avec son raisonnement. Ce qui me surprend un tout petit peu, c'est l'analyse plutôt du professeur Moïla Chiembe, parce que j'ai lu son ouvrage « L'état postcolonial, facteur d'insécurité en Afrique » et j'ai l'impression que les envies écrites par lui-même dans son ouvrage semble ne pas être ce qu'il est en train de partager aujourd'hui. Ce qui est vrai, et M. Fikir il venait de le dire, c'est que quand nous parlons ici, nous ne nous adressons pas aux Occidentaux. Nous ne nous adressons pas à Paris, à Emmanuel Macron, nous ne demandons pas à la France de venir résoudre nos problèmes. Nous disons que c'est à nous de poser nos problèmes à partir de nos propres réalités et de les résoudre. Alors le professeur dit quel est l'État africain capable de démobiliser autant de milliards de dollars. Mais professeur, si nous sommes capables, et puis qui a dit que notre problème, c'est un problème d'argent, c'est un problème de financement? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons identifié des secteurs porteurs de croissance. Nous avons identifié des secteurs, et notre problème aujourd'hui, c'est ce que Fikir vient de dire, nous devons créer notre industrie locale, notre système de production locale. Cette production locale ne part pas nécessairement des problèmes du niveau macro, des problèmes de l'économie internationale. Non, nous avons d'abord un souci de résoudre nos propres problèmes immédiats. Et ces problèmes immédiats ont occupé le Congo, 90% des Congolais, durant toutes ces années. Je n'ai jamais condamné l'économie informelle, je n'ai jamais dit, comme le professeur Assemblé l'a dit, que nous disons nous sommes dans le formel, que les autres viennent s'occuper de nous. Non, nous disons nous devons nous occuper nous-mêmes de nos problèmes parce que FMI, Banque mondiale, toutes les clubs de Paris n'ont jamais développé un pays en Afrique. Le grand problème est que l'Occident a réussi à contrôler l'Union africaine. Et l'Union africaine fonctionne aujourd'hui plus comme un syndicat de nos chefs d'État. L'Union africaine ne fonctionne pas comme une structure de propulsion du développement à la base. Tous ceux qui ont essayé de sortir comme Kadhafi, vous connaissez l'histoire, comment on l'a tué. Alors notre problème aujourd'hui, c'est que justement, de la même manière que ces puissances ont contrôlé l'Union africaine, ces puissances appellent nos chefs d'État pour contrôler notre possibilité de sortir. Aujourd'hui, je peux vous dire que la COVID-19, c'est une occasion énorme, malheureusement ratée, à cause des gouvernants, à cause du problème de la gouvernance politique.
Merci.
Nous n'avons pas voulu récupérer les opportunités nous apportées par la COVID-19. Vous voyez, lorsque on a parlé des problèmes des brevets d'invention, moi ça m'intéresse beaucoup cette question-là. On dit que il faut qu'on lève les brevets d'invention pour que l'Afrique soit capable de produire les vaccins ici sur le continent. Mais vous imaginez que d'abord sur le continent, même si on levait ces brevets, nous n'avons même pas les équipements nécessaires pour les faire, l'électricité. Je parlais avec le vice-doyen de la faculté de sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa qui m'a montré comment en Afrique, même l'Égypte qui semble être un peu en avance, c'est l'Afrique du Sud, se limite à l'emballage et à l'étiquetage des produits. Tout est encore sous-traité en Russie et en Chine.
Merci, professeur.
Donc, nous n'avons pas été réalistes.
Merci, professeur. Nous n'allons pas épuiser le sujet. Il est tellement vaste qu'en une émission, on ne saura pas l'épuiser. Et donc, nous devons conclure parce que nous sommes à la fin de l'émission. Professeur Moïda Chiembe, comment voyez-vous les économies africaines après ces sommets de Paris? Ça sera sur votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, je voudrais dire que ce n'est pas la première réunion du genre, il y en aura d'autres. L'important, comme mon collègue vient de le dire, c'est qu'il faut compter sur l'Afrique d'abord elle-même. Comme l'Europe compte d'abord sur elle-même, l'Amérique compte d'abord sur elle-même. Et lorsque nous aurons l'intelligence et le courage de faire ce que nous voulons faire d'abord nous-mêmes, nous fixer les objectifs, nous donner les moyens, nous verrions alors qu'est-ce qui nous manque et qui peut, en termes de solidarité, mettre le pied à l'étrier sur ceci ou cela en termes d'industrialisation. Mon collègue a parlé de l'industrie, mais l'industrie, ce n'est pas seulement un problème de verbe, c'est un problème de moyens, de vision. Quel type d'industrie nous voulons pour produire quel bien, consommable par qui, à quel prix et pour faire quoi? À ces questions-là, aujourd'hui, aucun pays africain n'a de réponse.
Merci, professeur.
Il y a des étonnements, mais on apprend par essais et erreurs.
Merci, professeur. Professeur Michel Bissa, vous allez aussi conclure. Hein. Et comment vous entrevoyez les économies africaines après ce sommet de Paris? Est-ce que la gouvernance pourrait être améliorée? Qu'est-ce qui peut changer à votre avis après ce sommet de Paris?
Merci beaucoup. Je voudrais en conclusion remercier mon aîné, le professeur Moïla Chiembe, que je lis beaucoup et j'apprécie beaucoup ses lectures. Par rapport à votre question, je pense que ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, effectivement, comme le prof Maïla l'a dit, c'est le financement à long terme de notre système d'industrie de transformation locale de nos propres produits. Cela va conduire à la création des emplois locaux, à la production de nos propres besoins selon nos propres moyens. Le surendettement n'amène pas automatiquement la pauvreté et la dette n'est pas une mauvaise chose. L'angoisse de la dette doit être portée par les créanciers. J'ai dit que qu'est-ce qui doit changer? Dès le début, cette pandémie a été mal perçue. Nous l'avons attaqué sur les plans de la santé, alors que c'était une affaire multidisciplinaire, une affaire multisectorielle. Lorsqu'on a créé un service qui devrait s'occuper des questions économiques dirigées par le cabinet du président de la République, ce qui doit changer, c'est quoi? On doit changer trois choses. La première chose, la vision. Nous devons quitter la vision orientée vers l'Occident pour retourner vers le Congo profond. Deuxième chose à changer, nous devons changer les recrutements. Nous devons arrêter de mettre des gens incompétents parce qu'ils sont militants des partis politiques, parce qu'ils sont amis de tel ou de tel, mais on doit prioriser l'intelligence. Et troisième chose, nous devons encourager la socialisation et la sanction.
Merci, merci professeur, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou qui était à la technique et à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bonsoir de programme sur Radio Okapi.